jusqu'au pays de Banque Atlantique. L'offre Diaspora pour investir au pays vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous, merci de votre fidélité. On est ensemble jusqu'à 9h, temps universel. Dans 30 minutes, vos réactions sur la présidentielle au Bénin. Le scrutin est certes prévu dans 10 mois, l'échéance est lointaine, mais elle est déjà dans tous les esprits, d'autant que Patrice Talon arrive au terme de son second et dernier mandat. Et la question de sa succession anime déjà les débats politiques, d'autant que son dauphin n'a pas encore été désigné. On a appris en début de semaine qu'on connaîtra le nom le 12 octobre. C'est ce qu'a précisé le porte-parole du gouvernement Wilfried Umbeji. Qui donc pour incarner la majorité présidentielle? Le mystère reste entier. Mystère également du côté de l'opposition. Là aussi, c'est le mutisme. Aucun candidat ne s'est encore déclaré. On est tout de même à moins de 4 mois du dépôt des candidatures. C'est une situation inédite. Alors, que vous inspire ce silence de la classe politique? On a envie de vous entendre, auditrices et auditeurs béninois. Appelez-nous 33 9 693 693 70. Vos analyses, vos commentaires également sur nos réseaux sociaux. Mais d'abord, vous le savez, durant les 20 prochaines minutes, ce sont vos questions sur l'actualité. La rédaction, les experts vous répondent en direct. Abdourahman, soyez le bienvenu. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Gomez. Et bonjour à toute votre équipe.
Et merci à vous de nous suivre à Guéchémé. Guéchémé, c'est vraiment au sud-ouest du Niger. J'ai regardé sur Google avant d'entrer dans le studio. C'est vraiment à la frontière avec le Nigeria.
Oui, nous sommes à la frontière avec le Nigeria.
Bon, soyez le bienvenu sur RFI. Vous avez des questions sur l'élection du président sierra-léonais à la présidence tournante de la CDAO.
Oui, monsieur Gomez, comment expliquer son élection alors que le président sénégalais était pressenti pour ce poste?
Ah, bonne question,
et
effectivement.
Quelles sont les priorités de son mandat?
On va essayer d'entrer dans les coulisses de cette élection avec Christina Okello. Ouais. Bonjour Christina.
Bonjour Juan, bonjour Abdourahman. Donc d'abord la première question, c'est vrai que beaucoup s'attendaient à voir Bassirou Diomaye Faye prendre la tête de la CEDEAO, mais c'est finalement Julius Maada Bio, le président sierra-léonais, qui a décroché le Graal. À plusieurs raisons expliquent ce choix. Il y a eu d'abord cette bataille d'influence entre le bloc francophone et anglophone, et l'absence d'Alassane Ouattara et de Faure Gnassingbé, tous les deux retenus par des obligations internes, a privé Diomaye Faye d'un soutien important de deux poids lourds. Résultat, c'est encore un autre pays anglophone qui prend les rênes du bloc régional après le Nigeria et le Ghana. Julius Maada Bio, lui, a souligné que c'était sa dernière chance. Il est en second mandat, il avait déjà candidaté l'an dernier, sans succès. À l'inverse, Diomaye Faye, tout juste élu, est encore jeune et aura d'autres occasions pour assumer cette présidence tournante. Et dans un contexte régional marqué par les crises sécuritaires, plusieurs dirigeants ont sans doute préféré miser sur un chef d'État davantage expérimenté, synonyme one d'un gage de stabilité.
En tout cas, plusieurs défis attendent le nouveau président de la CEDEAO. Notre région est à la croisée des chemins, a-t-il déclaré lors de son discours. Quelles sont les priorités de son mandat?
Écoutez, son projet phare, c'est de donner la priorité au retour à l'ordre constitutionnel après les coups d'État successifs. Julius Maada Bio a annoncé lors du sommet à Abuja vouloir recentrer la CEDEAO sur ses fondamentaux, la paix, la stabilité, la sécurité. Cela passe avant tout par la restauration de la crédibilité de l'organisation fragilisée par le départ fracassant de pays de l'Alliance des États du Sahel. Ce départ bouscule d'ailleurs une autre priorité du président sierra-léonais, la libre circulation. La Sierra Leone veut réformer la CEDEAO à partir du terrain, impliquer directement les agents d'immigration et de douane pour que les règles décidées à Abuja se traduisent concrètement sous les routes et aux frontières.
Julius Maada Bio veut donc remettre les priorités de la CEDEAO sur le terrain, mais au-delà de ces grands principes, il y a aussi Christina Okello, des enjeux très concrets qui concernent d'ailleurs son propre pays.
Oui, Julius Maada Bio veut aussi faire avancer le dossier de différents territoriales avec la Guinée autour de la localité de Yenga. À fin avril, des soldats guinéens y sont entrés, provoquant le déplacement de plusieurs centaines de sierra-léonais. Freetown espère donc que cette présidence tournante de la CEDEAO permettra de relancer la médiation.
Voilà donc pour les priorités de Julius Maada Bio. Vous avez une dernière question, Abdourahman?
Oui, monsieur Gomez. Que prévoit ce nouveau président concernant les pays de l'AES qui ont quitté la CEDEAO?
Alors, j'ai cru comprendre, Christina Okello, qu'il voulait renouer le dialogue avec les putschistes.
Oui, tout à fait. Julius Malabio dit vouloir tendre la main carrément au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Il met en avant son propre parcours. Ancien militaire, devenu président civil, il dit comprendre la logique des régimes putschistes. Selon son gouvernement, cela ferait de lui un bon médiateur, capable de négocier et pourquoi pas de ramener ce pays dans le bloc régional. Mais cette tâche s'annonce rude et aux yeux de certains, pour espérer convaincre ces États de revenir sur la voie démocratique, il faudrait peut-être commencer par balayer devant sa propre porte. Julius Malabio est lui-même contesté dans son pays, la Sierra Leone, après une présidentielle disputée en 2023, entachée d'accusations de fraude et de manque de transparence.
Bon, en tout cas, c'est peut-être justement ce profil d'ancien militaire qui a pesé sur la balance et qui a fait qu'effectivement, face à Bassirou Diomaye Faye, dans le contexte de crise inédite que traverse la CEDEAO, peut-être que le président Sierra Leone était l'homme de la situation. On verra cela. Il a 12 mois devant lui, ouais, pour mettre à exécution ses nombreux projets. Abdourahmane, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, monsieur Gomez, merci. Et merci à Christina Okino pour toutes les réponses données.
Eh merci voilà. À vous, Abdourahmane.
Et bonne journée à tous les deux. Il est 10h16 à Paris. D'autres questions à la rédaction de RFI. On va parler réchauffement climatique. Simon Rosé nous rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Chef du service environnement climat de RFI. Pascal a des questions à nous poser. Il est à Douala. Bonjour, Pascal.
Bonjour, Anne. Bonjour, je vous de RFI.
Soyez le bienvenu.
Qu'il est désormais impossible de limiter le réchauffement climatique à 1,5% degré Celsius. Alors, Anne, j'ai une petite question. Comment les scientifiques en sont-ils venus à cet instant?
Alors, on va déjà répondre à cette première question, Pascal, et éloigner un tout petit peu votre bouche du combiné, car le son sature, on fait de la radio, on a besoin de bien vous comprendre. Simon Rosé, limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, je parle sous votre contrôle, c'était le principal objectif de l'accord de Paris l'accord sur le 21, climat, signé il y a 10 ans. Et visiblement, ce seuil, nous l'avons déjà franchi ou nous sommes en passe de le franchir ?
Alors l'année 2024 a été la plus chaude jamais enregistrée et la première effectivement à franchir ce seuil, mais les scientifiques considèrent qu'il n'est pas encore franchi. Pour le coup, il faudrait qu'il le soit sur plusieurs années, sur une période assez longue pour considérer que ça y est, définitivement, le climat a passé cette limite et ça va arriver plutôt que prévu, les scientifiques auteurs de l'étude. En fait, on va aborder la notion de ce qu'on appelle budget carbone. Ce qui compte, c'est les émissions de gaz à effet de serre, ce qu'on injecte dans l'atmosphère aujourd'hui, mais c'est surtout le stock de CO2 qui se trouve dans l'atmosphère, puisque le CO2, le dioxyde de carbone, c'est un gaz à effet de serre qui reste longtemps. Il ne va pas se dégrader en quelques dizaines d'années, ça va prendre des centaines, voire des milliers d'années.
Et là, le budget carbone, il est estimé à combien ?
Il est resté à 130 milliards de tonnes et on est à un rythme d'émission de 50 milliards à peu près par an.
Ah oui, donc dans 3 ans ?
Donc dans 3 ans.
On aura franchi le cap d'un degré 5.
Voilà, parce que en fait, depuis l'accord de Paris, les émissions de gaz à effet de serre de l'humanité n'ont cessé de progresser. On devrait atteindre normalement un pic et puis commencer la décrue. On n'y est pas, on est toujours sur la progression. Là, on se pose les questions sur est-ce que 2025, 2026 vont être l'année où on va avoir ce pic. Et après, toute la question, c'est celle de la trajectoire, de la dynamique de cette décrue. Il faut le voir un peu comme une baignoire qu'on remplit, on ne veut pas qu'elle déborde. Là, elle est remplie au 9/10, elle est quasiment pleine. Le robinet, il est à fond, on continue de l'ouvrir encore plus. Il ne s'agit pas de le couper d'un coup en 2050 pour arriver à zéro émission. Parce que sinon, on l'aura débordé depuis longtemps. Mais puisque le rythme des émissions n'aura pas été, de décrue des émissions n'aura pas été suffisant. Donc là, on est un peu dans ce cadre, on a ce budget carbone qui reste. Et en fait, on pioche dedans allègrement et au point où on va dépasser.
Et si on diminuait notre consommation de pétrole, de gaz, de charbon, je ne sais pas, d'ici à l'année prochaine, d'ici à 2 ans
C'est une question de rythme, c'est dans quelle mesure on va le faire. On a 130, bah en gros il nous reste 130 dans notre poche, on dépense 50 par an. Si on dépense 40 l'an prochain, ce ne sera pas suffisant pour tenir cette limite.
Voilà, d'où le cri d'alarme lancé donc, par ces scientifiques. Pascal, je vous ai coupé la parole, vous avez une dernière question, allez-y.
Oui. Alors, quelles seraient les conséquences une fois que les 1,5 degrés auront été dépassés ?
Ah, le réseau sature. Hein. Quelles seront les conséquences une fois ce degré 5 dépassé ?
Pas bonne. La limite de 1,5 degré, elle n'a pas été choisie au hasard juste pour avoir un chiffre à peu près rond. C'est là, c'est... On voit déjà aujourd'hui, on a un réchauffement de 1,3 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Et on voit que l'année 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée, avec son lot de catastrophes et d'événements météorologiques extrêmes. Un climat qui se réchauffe, pour chaque degré de réchauffement, c'est 7% d'humidité en plus dans l'atmosphère, puisqu'un air chaud, en fait, agit un peu comme une éponge et absorbe l'humidité qu'il y a non seulement au-dessus des océans, il y a plus d'évaporation, mais également de la végétation. Donc c'est de la végétation qui s'achève, qui s'assèche, et c'est une atmosphère chargée d'humidité qui doit bien se relâcher à un moment. Donc c'est des cycles de l'eau qui sont beaucoup plus intenses, avec des zones de sécheresse, avec des zones de précipitation intenses. On l'a encore vu récemment à Kinshasa avec des pluies diluviennes et encore son cortège de morts. C'est l'élévation du niveau de la mer. À horizon 2100, sur 1,5 degré, on est sur plusieurs centaines de milliers, voire dizaines de millions de personnes qui sont touchées par l'élévation du niveau de la mer. Et le risque, c'est qu'on continue comme ça. Là, on est sur une trajectoire aujourd'hui, si on compile tous les engagements des pays, tout ce qu'ils ont promis là à date, on est sur une trajectoire de réchauffement de 3,1 degrés. 3,1 degrés, c'est une catastrophe. Là, on parle de milliards de personnes concernées sur Terre. C'est pour ça qu'il y a cet objectif. Et ce que disent les auteurs de l'étude, ils posent ce constat qui est lucide. Et après, ils disent maintenant, bon, bah, on ne baisse pas les bras. Si on a raté le 1,5 degré, le prochain objectif, c'est le 1,6 degré. Chaque dixième de degré compte. Chaque tonne évitée d'émissions de dioxyde de carbone et autres gaz à effet de serre compte. Parce que les réchauffements en termes de sécurité alimentaire, de sécheresse, d'inondation, de montée du niveau de la mer, d'effondrement de la biodiversité, 80% du PIB mondial repose sur la nature. Tout ça, c'est une catastrophe. Et les scientifiques sont vraiment maintenant dans un discours où ça, là, ce qu'ils annoncent aujourd'hui, c'est ce qu'ils disent depuis 20 ans. On ne les a pas écoutés. Donc, écoutez-nous. On documente, on a les rapports. Avec le GIEC, a fait un travail monumental là-dessus. On sait ce que ça va causer. Écoutez-nous, parce que jusqu'à présent, on ne s'est pas trompé.
Méditons. Merci beaucoup, Simon Rosé. Pascal, bonne journée à Douala.
Merci, bonne journée à vous.
Merci à vous, Pascal.
Bonne journée, Simon Rosé, chef du service environnement climat de RFI. 8h22 en temps universel, 33 9 693 693 70. Des questions au lendemain de l'annonce d'un cessez-le-feu après 12 jours de guerre entre Israël et l'Iran. Bonjour Adam.
Bonjour, bonjour à vous.
Ah, oula, décidément, on enchaîne les mauvaises lignes téléphoniques. On va tendre l'oreille, on vous écoute.
J'ai une question concernant le cessez-le-feu entre Israël et l'Iran.
Oui.
Pourquoi la fin de la guerre a-t-elle été annoncée par le président iranien et non par le guide suprême?
Ah, excellente question que vous posez, Adam. Bonjour, Kavan Gaifi.
Bonjour,
Gafaiti. Excusez-moi, j'ai écorché votre nom de famille. Vous êtes enseignant-chercheur à Sciences Po Paris. On peut vous lire aux éditions L'Harmattan, la crise du détroit d'Hormuz de 2018, une victoire iranienne sur les États-Unis. Effectivement, c'est le président iranien qui a annoncé hier soir la fin de la guerre. Où est donc passé le guide suprême Ali Khamenei?
Oui, vous le savez, la République islamique d'Iran a une diarchie du pouvoir. Vous avez le président de la République, mais qui est soumis à l'autorité du guide suprême de la révolution, en l'occurrence Ali Khamenei. Et donc, ce n'est pas Khamenei, mais c'est le président iranien Massoud Pezeshkian qui a déclaré la fin de la guerre des 12 jours. Mais alors pourquoi? En fait, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que finalement, on revient à une répartition normale du pouvoir, où le guide suprême maintenant est censé être au-dessus des institutions, au-dessus de la politique partisane. Le rythme de la vie politique iranienne devrait se réorienter vers quelque chose de stable. Le président récupère ses prérogatives. Et ensuite, il y a un autre facteur, à savoir que finalement, quel est le bilan réel de cette guerre? Est-ce vraiment une victoire? Est-ce vraiment une défaite? Pour ne peut-être pas trop se mouiller, mieux vaut que ce soit le président qui déclare cette nouvelle.
Ouais, en tout cas, Ali Khamenei, on le dit isolé, très isolé depuis une dizaine de jours. D'ailleurs, il n'a délivré, et je parle sous votre contrôle, Kavan Gafaiti, il n'a délivré au public que 2 messages vidéo.
Complètement. Il faut voir qu'il a été physiquement isolé. C'est une information qui a été confirmée, du moins qui n'a pas été infirmée par l'Iran. Ali Khamenei, le guide suprême, dès le début des hostilités, s'est mis à l'abri dans un bunker. Le président Massoud Pezeshkian, lui, dimanche dernier, était dans les rues téhéranaises avec les manifestations populaires de soutien.
Et les images ont circulé sur les réseaux sociaux.
Complètement, complètement. Donc il y a une forme d'isolement et une forme de très grande prudence, vous l'avez entendu, il y avait beaucoup de menaces de mort, d'éventualité d'assassinat de la part contre sa personne.
Ouais. Est-il sur la touche, Ali Khamenei, aujourd'hui?
Non, Non, vraiment pas. Il faut voir qu'il reste complètement le réel détenteur du pouvoir en Iran. Il y a des contestations. On aurait tendance à penser qu'il est affaibli. Il faudra voir sur le moyen terme. Mais à court terme, sa place n'est absolument pas compromise.
Autre question au standard d'appel sur l'actualité. Bonjour Caleb.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Bienvenue, on vous écoute.
Je vous écoute.
Allez-y, on vous écoute, vous êtes à l'antenne, Caleb.
Voilà, c'est mardi, Donald Trump a affirmé qu'il ne voulait pas de changement de régime de Téhéran. Alors pourquoi dimanche, parce que dimanche dernier, il n'excluait pas ce scénario. Comment expliquer ce rétropédalage?
Ah, bonne question, effectivement. C'est vrai qu'on a du mal à suivre Donald Trump. Dimanche, il écrivait sur son réseau social « Si le régime iranien actuel est incapable de rendre l'Iran grand à nouveau, pourquoi n'y aurait-il pas un changement de régime rétropédalage 48 heures plus tard ?» Expliquez-nous pourquoi, Kavan Ghafaidi.
Voilà, complètement. On a eu le hashtag MIGA qui a émergé sur Twitter, Make Iran Great Again, rendre l'Iran grand à nouveau, qui a été lancé par Donald Trump lui-même. Et en fait, comme vous le disiez, il y a beaucoup de variations dans la ligne du président Donald Trump. Il a clairement évoqué un regime change scénario, un changement de régime, et il est complètement revenu dessus hier. Je pense qu'il y a eu une volonté peut-être d'influencer la population iranienne. Israël avait fait la même chose, ça n'a pas pris. Oui. Et donc là, il y a effectivement une forme de rétropédalage.
Mais ça n'a pas pris. Et en même temps, ce n'est pas surprenant, Kavan Ghafaidi. Comment imaginer que la population sorte manifester alors que Téhéran est ciblé par les bombes, était ciblé par les bombes israéliennes à ce moment-là?
Absolument, il y a eu, on le rappelle, hein, des centaines de morts. Alors le bilan officiel, qui est maintenant d'ailleurs obsolète, il date de la semaine dernière, précisait 650 morts, dont 400 civils. En réalité, on a certainement dépassé le millier, beaucoup de civils. C'était très difficile pour les Iraniens de s'exprimer sur l'espace public. Cependant, vendredi dernier et dimanche dernier, vous avez eu des manifestations où très clairement les Iraniens disaient « nous ne voulons pas de changement de régime imposé depuis l'extérieur ». Donc là, il y avait cette expression très très forte.
Ouais, pas de régime imposé par une puissance étrangère. Caleb, une dernière question?
Oui, j'ai une deuxième question. Je fais une analyse. L'opposition iranienne est divisée entre les exilés monarchistes, réformistes et modérés, et mouvements laïques ou nationalistes. Alors, aucun groupe ne semble aujourd'hui capable d'assurer une transition stable et légitime. C'est pourquoi cela pourrait plonger les pays dans le chaos. Alors ma question est celle-ci. En cas de chute du régime des Mollahs, qui pourrait prendre la relève?
Ah, qui pour prendre la suite? Effectivement, Kavan Ghafaidi, la question s'est posée ces 10 derniers jours.
Oui, les changements de régime constitutionnel sont rarement dans la douceur et dans la discussion. Ce qu'il faut voir, c'est que dans le système de la République islamique d'Iran, il y a différents courants politiques. On parle de courants réformateurs, de courants conservateurs, de courants réformistes, qui sont aujourd'hui complètement muets par rapport à la priorité qui est en fait pas la survie politique, mais la survie nationale, la survie biologique de l'Iran et des Iraniens. Et ensuite, il y avait effectivement maintenant le cas des monarchistes, avec Reza Pahlavi, le fils du dernier chef d'Iran, Mohamed Reza Pahlavi, qui aujourd'hui à Washington, en Iran, aux États-Unis, qui s'était très rapidement positionné comme une alternative politique, mais encore une fois, ça n'a pas pris. Oui. Le peuple iranien n'a pas exprimé de réel soutien. Je pense qu'il y a une rupture entre les Iraniens d'Iran et Reza Pahlavi. Oui. Donc il n'y a pour le moment pas d'alternative.
Pas d'alternative, et puisque vous parlez du fils du dernier chat, ce qui ne passe pas aussi auprès de l'opinion publique iranienne, c'est qu'il a soutenu les frappes israéliennes alors que ces mêmes frappes faisaient des victimes civiles.
Et oui, vous quelque chose de fondamental. Le vendredi 13 juin, vous avez l'attaque israélienne illicite au regard du droit international, on le rappelle. Et le 13 juin, vous aviez une déclaration officielle de Reza Pahlavi qui soutenait l'attaque israélienne. S'il y avait une rupture, là maintenant, il y a un fossé complet.
Ouais. Merci à vous, Kavan Ghafaidi, d'avoir été avec nous. On s'excuse, on a eu des petits problèmes de réseau téléphonique, mais on a compris évidemment l'essentiel. Je renvoie les auditeurs à cet ouvrage que vous avez publié concernant la crise du détroit d'Hormuz 2018, une victoire iranienne sur les États-Unis. C'est publié aux éditions L'Harmattan. D'autres questions pour mieux comprendre l'actualité demain, 8h10 temps universel. D'ici là, vous continuez à nous appeler. 33 9 693 693 70, on vous attend également. évidemment sur nos réseaux sociaux. On lit tous vos commentaires et toutes vos questions tout au long de la journée. L'équipe est là, fidèle au poste. Reste avec nous, la dernière édition d'Afrique Matin, c'est dans 10 secondes et on reviendra tout de suite après pour débattre de l'ambiance politique au Bénin. Pas de candidat, ni dans la majorité, ni dans l'opposition, et on est pourtant à 4 mois.